Est-ce la bonne décision ? Quelque chose ? Est-ce trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Débat et controverse sur BFM Business. Stéphane Pedrazzi accueille les experts.
Deuxième partie des experts avec nos trois invités, Xavier Timbaud, directeur principal de l'OFCE, Christian Poyot, PDG de Micropole et Patrick Bertrand, directeur général en charge des opérations d'Allnest. On va parler du salaire des grands patrons. Le débat a été relancé par trois agences de conseil aux actionnaires qui appellent à voter contre la rémunération de Carlos Tavares lors de l'Assemblée Générale de Stellantis la semaine prochaine. Ils ont fait leur calcul, 42 millions d'euros pour la rémunération annuelle. À noter que le document de référence de Stellantis avance un chiffre différent, 36 millions et demi, ça représente 3 millions d'euros par mois, 1700 fois le SMIC, mais seulement la moitié du salaire de Kylian Mbappé. Pourquoi est-ce que c'est choquant ?
Ah, ça y est, la bave commence à couler aux lèvres des démagogues, une fois de plus, dans le débat.
Oui, mais le salaire de Kylian Mbappé ne fait pas vraiment scandale.
Mais oui, mais c'est toujours ça le même sujet. Enfin, est-ce que Carlos Tavares, quand même, peut se targuer d'une grande réussite à la tête de Stellantis? Oui, voilà. D'ailleurs, puis on pense toujours Peugeot, mais enfin, il faut bien avoir la vision de
le groupe
la Galaxie.
Énorme.
C'est un groupe énorme au niveau mondial, enfin, etc., qui l'a redressé de manière brillante avec une implication extraordinaire.
Et une fusion difficile.
Voilà. Après, deuxième point, dans le salaire qui est évoqué, il y a une large part qui est en fait en action, enfin, pas directement en salaire.
C'est pas son salaire, c'est sa rémunération totale.
C'est sa rémunération, oui, mais c'est toujours pareil. C'est-à-dire, les gens se disent, c'est le salaire qu'il a un chèque à chaque fin de mois sur son compte en banque. Alors que je pense que c'est plutôt, en ce qui concerne Kylian Mbappé, que je n'ai rien contre Kylian Mbappé, on est bien d'accord, mais c'est ce qu'il doit toucher sur son compte en banque chaque fin de mois.
6 millions d'euros par mois.
Voilà. Et encore, je ne sais même pas si ça prend les droits indirects de publicité et tout ce qui va bien de manière générale. Donc, Monsieur Carlos Tavares est sur un marché mondial face effectivement les homologues, au niveau international. Donc,
alors justement, on a un commentaire sur les réseaux sociaux. Bertrand nous dit la présidente de General Motors aux États-Unis touche 40 millions de dollars par an.
Oui, voilà. Donc, il est sur un marché, voilà. Alors, évidemment, je comprends bien pour le commun des mortels. Moi, je suis très loin de toucher ce salaire-là aussi. Hein. Je rassure l'Assemblée si tant est que ça soit nécessaire. Ça semble totalement extravagant. Moi, foncièrement, je pense qu'on mesure pas bien non plus ce qu'est la vie d'un patron comme ça. Hein, franchement, hein. On est tous ici dans des très engagés dans nos métiers respectifs, mais pour en connaître quelques-uns, la vie d'un patron du CAC 40 et Carlin Calo Savres, mais c'est une pression.
C'est 25 heures par jour.
C'est du délire total. Mmh. C'est du délire total. Avec des responsabilité absolument énorme. Donc moi, franchement, à partir du moment où, de toute façon, il y a une gouvernance dans l'entreprise, ça va être voté par l'Assemblée Générale, il y a un conseil d'administration, il y a une gouvernance, moi, je n'ai pas de remarques à faire par rapport à ça.
Alors, sauf Xavier Timbaud, que si les actionnaires, comme en 2021, votent contre la rémunération, comme l'entreprise a son siège aux Pays-Bas, ça n'aura absolument aucun effet.
Ok, mais enfin, je pense que le point de Christian est important, parce que là, aujourd'hui, le débat, il n'est pas tellement avec le commun des mortels qui s'émeut, enfin... Peut-être qu'il y a des tas de gens qui s'émeuvent de la rémunération de Tavares, mais en fait, là, le problème, c'est que c'est son Assemblée Générale qui s'en émeut.
Ce sont trois agences de conseil aux actionnaires.
Oui, mais...
Qui appellent à voter contre lors de l'Assemblée Générale.
Derrière, se pose la question de, en fait, comment est établie cette rémunération, sur quoi elle est basée, comment est contrôlée cette rémunération. La question, c'est pas de savoir, pour les actionnaires, est-ce que c'est 40 millions ou est-ce que c'est trop en soi? C'est-à-dire, est-ce qu'il faut le ramener à 10 fois le SMIC parce que ça serait socialement plus juste? C'est pas du tout ça la question des actionnaires, c'est de dire les 42 millions de rémunération de Tavares, c'est de l'argent en moins en termes de dividendes pour les actionnaires. Donc, si on ramène sa rémunération à 36 millions, ce qui reste quand même une rémunération à la fois correcte et compétitive, je pense, sur le plan des grands patrons, même dans l'industrie automobile, ça fait quand même 6 millions qui vont aller plutôt en dividendes aux actionnaires. Et là, c'est une fronde des actionnaires. Donc ça, c'est très important parce que c'est la question qu'il y a derrière, c'est est-ce qu'un grand patron est capable, à travers des montages complexes, à travers une architecture peu transparente, de bypasser, en quelque sorte, de faire sans la gouvernance de l'entreprise. Bon, voilà, on sait qu'un grand groupe dans lequel il y a plein d'entreprises fusionnées, ça a une gouvernance qui est horriblement compliquée. Mais il y a quand même aussi un devoir dans les entreprises, c'est d'avoir, en particulier quand elles sont cotées, quand elles sont publiques, c'est d'avoir une gouvernance qui est transparente, qu'on sache qui décide, et qu'on sache aussi qu'il y ait des contre-pouvoirs, parce qu'on ne peut pas avoir ces grands patrons avec tout le talent qu'ils peuvent avoir, qui ne soient pas, à un moment donné, contrebalancés par des contre-pouvoirs. Ces contre-pouvoirs, ils sont très importants, c'est ceux de la gouvernance des entreprises. Et là, la question qui se pose, c'est de savoir, est-ce que aujourd'hui, chez Stellantis, cette gouvernance, elle fonctionne, et c'est le rôle d'agence de conseil aux actionnaires, c'est le rôle d'actionnaires minoritaires, de prendre leur responsabilité en fait. Hein. Ils sont actionnaires et c'est à eux de dire voilà ce qu'on pense de la gouvernance de l'entreprise. Et je pense qu'on est loin du débat sur est-ce que il y a trop d'inégalités, est-ce que les patrons sont trop payés.
C'est quand même ce qui ressort dans la presse. Hein,
mais c'est ce qui ressort dans la presse.
Mais là, ce dont on parle, bien sûr, mais
ce dont on parle, c'est pas ça en fait. Hein. Ce dont on parle, c'est une question de gouvernance qui me paraît assez importante.
Pas forcément une presse populiste. Hein. Le journal Le Monde a écrit un article sur la question.
Oui, alors la vision du monde par rapport au monde économique est toujours un petit peu spécifique, on va dire ça comme
Patrick
ça.
Bertrand. Et le mot-clé, c'est gouvernance. J'ai l'honneur de présider le comité gouvernance des entreprises du MEDEF qui travaille sur ces questions-là. Vous savez qu'il existe un code qui s'appelle le code AFEP-MEDEF. Et d'une certaine façon, si les actionnaires, en tout cas les agences qui conseillent les actionnaires pour les votes à l'Assemblée Générale existent, c'est bien qu'il une gouvernance qui fonctionne. Et elle fonctionne sur la base d'un système qui est maintenant bien connu, c'est ce qu'on appelle le say on pay. Le say on pay, c'est l'obligation devant l'Assemblée Générale, en amont, de dire l'année prochaine, voilà comment seront calculés les éléments de rémunération du dirigeant. Et après, en aval, de dire voilà, vous avez approuvé tel et tel système de calcul, et cela donne temps, et est-ce que vous approuvez. Donc ça veut bien dire qu'il y a une gouvernance explicite, puisqu'on est informé du sujet. Après, comment un conseil d'administration et notamment un comité des rémunérations doit-il statuer ? Il y a plusieurs éléments qui rentrent en ligne de compte et moi je fais confiance à la gouvernance du groupe Stellantis. On l'a évoqué, il y a le marché, c'est-à-dire est-ce que la rémunération du dirigeant est dans le marché des dirigeants de cette entreprise ? Est-ce que l'entreprise a fait des très beaux résultats ? Christian l'a rappelé, c'est juste formidable ce qui a été réalisé, parce que c'est pas du rythme de croisière. Hein. Il y a eu une grosse fusion avec Fiat et d'autres. Y a-t-il un accord de partage de profit ? C'est-à-dire, est-ce qu'en amont de la rémunération du dirigeant, est-ce qu'il y a bien un partage de profit avec les collaborateurs ? De vérifier le poids du salaire du président sur le total de la masse salariale. Moi, je suis pas du tout en faveur de l'histoire de l'écart, parce qu'à ce moment-là, vous aurez plus de dirigeants de qualité qui iront dans l'industrie, parce qu'on sait que dans l'industrie ou dans certaines entreprises de services, il y a des salaires plutôt plus bas. Ah bon, si la règle, c'est l'écart, il y aura plus de dirigeants. Donc, il faut plutôt regarder le poids de la rémunération du dirigeant dans le poids des salaires globaux. Et puis, et enfin, une transparence, Xavier l'a très bien évoqué, le fait que la proportion de variables de cette rémunération soit importante et puisse être évaluée précisément avec des critères précis. Parce qu'effectivement, si c'est de la totalité du fixe, que ce soit sous forme d'action, etc., mais s'il y a du variable, ça veut dire que y a de la performance, tu en as, il n'y a pas de performance, tu n'en as pas ou tu en as moins.
Deux remarques par rapport à tout cela. Les trois agences qui appellent à voter contre la rémunération ont fait leurs calculs. Ils disent que Carlos Tavares gagne entre 6 et 7 fois plus que le salaire médian des autres grands patrons du secteur de l'industrie.
C'est ce que le comité
et si on compare également avec le salaire de Luca De Meo, le patron de Renault, mais évidemment le groupe n'a pas la même taille.
Et la même performance.
5,3 millions d'euros l'an dernier, en hausse de 19%.
Et la même performance. En toute hypothèse, c'est juste joke, mais pour Mbappé, il n'y a pas de comité rémunération, nomination et d'approbation par l'Assemblée Générale.
De la rémunération des footballeurs, parce que c'est quand même une question assez intéressante. Et de l'économie qu'il y a derrière, parce que ça pousse les clubs de football dans une espèce de course en avant pour à la fois arriver à aligner ses rémunérations, aligner les montants pour racheter les joueurs. Quand on regarde, puisque Christian nous disait, regardons comment font les petits copains, quand on regarde comment se passe le sport aux États-Unis, il se passe dans des circonstances complètement différentes, avec un système qui vise justement à éviter la fuite en avant financière et à garder des rémunérations.
Mais il y a une règle sur le fair play financier.
Il y a une règle sur le fair play financier. Alors, est-ce que le PSG n'a pas été rappelé à la Londres maintes fois sur le fair play financier? Est-ce que le fair play financier n'est pas un schéma dans lequel, enfin, qui reste un schéma qui n'est pas une régulation et qui est un accord entre gentlemen? Et est-ce que c'est pas un schéma? Alors, il se trouve que le PSG a été maintes fois rappelé à Londres. Et est-ce que c'est pas un schéma qui est trop facile à...
Moi, je suis Patrick, je sais que vous êtes très loin du monde.
Je vais pas commenter
évidemment.
Effectivement, il y a beaucoup de choses, mais le fair play financier, c'est un cap de rémunération, mais c'est aussi comment ces rémunérations sont financées. Oui. Et il y a aussi un sujet de concurrence qui a été très largement évoqué, et ça remet pas en cause mon respect à tous les gens qui acceptent de s'investir dans le sport d'une façon générale. Mais effectivement, il y a une petite concurrence déloyale quand il s'agit de capital privés qui financent des clubs de football, de handball, de basket, et puis des capitaux d'origine publique. Donc non, mais bon, on va pas citer un pays particulièrement, parce qu'il y a de très nombreux pays qui ont investi dans les clubs en Europe.
Le financeur du PSG, c'est le Qatar. Hein.
Mais le point qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est quand même assez frappant, c'est-à-dire ça ne frappe pas, et on le comprend psychologiquement. Une très haute rémunération d'un footballeur ne frappe pas l'état d'esprit de la population, parce que il participe à une forme de joie de le voir jouer, etc. Alors que la rémunération d'un dirigeant qui a fait un travail, on l'a dit tout à l'heure, absolument remarquable, qui a permis de développer et de maintenir une entreprise internationale d'origine française et européenne, eh bien, on se dit, oula, de quoi, comment, pourquoi, etc. Donc il y a une forme de disproportion. Donc il faut arriver justement à pas être populiste et à expliquer que chacun a son rôle et qu'il y a une forme de contribution à la société, contribution du sportif à la société, à la joie, au plaisir de participer à une manifestation sportive de qualité, et de l'autre côté, eh bien, respect et acceptation que l'entreprise, d'ailleurs ça ressort de tous les sondages, c'est bien mieux compris que l'entreprise a un rôle de stabilité de la société avec un grand S, remarquable, accepté par tout le monde. Donc attention aux démarches trop réductrices.
Et on continuera le débat sur le foot juste derrière. Derrière moi, il y a le studio d'RMC. Il suffit de traverser la cloison.
Mais là, on ne parlait pas de foot, on parlait de l'économie du foot. Et je pense que c'est tout à fait adapté ici. On devrait peut-être en parler plus souvent, parce que c'est un sujet très intéressant.
Du sport, allez, il nous reste un quart d'heure. Il faut qu'on avance.
Il y a la géopolitique derrière aussi.
Il nous reste un quart d'heure. Il faut vraiment qu'on avance pour la carte blanche. Vous êtes venus chacun avec un sujet que vous souhaitiez défendre. On va commencer avec vous, Patrick, pour parler du plan santé du gouvernement.
Tout à fait. Donc, le plan santé et la santé d'une façon générale, on sait combien elle est dans le top, même pas le top 3, le premier avec la sécurité, dans le top 3 des
priorités
des préoccupations et des priorités des Français. Donc, on a conscience qu'il y a eu des dérives, la période Covid l'a démontré. Et tout d'un coup, il y a un Premier ministre très dynamique au demeurant, qui débarque en annonçant un certain nombre de mesures assez spot, et au fond, si on raisonne de façon purement publique, est-ce qu'on a retenu la taxe lapin? Évidemment qu'il faut taxer les gens qui ne viennent pas au rendez-vous chez les médecins, parce que ça libérera de la place pour les autres. Ce que je voulais dire, et ce qui, au fond de moi, est un point majeur, c'est que notre système de santé a besoin d'un véritable plan profond. Et partant du constat suivant, c'est que les dépenses de santé par rapport au PIB en France sont globalement équivalentes à ce qu'on constate en Europe, et on s'assurerait si dans les autres pays, les citoyens de ces autres pays étaient mal soignés. Mais il y a un gros bug, c'est quand on analyse ces dépenses de santé, on s'aperçoit qu'il y a 10% sur une base 100, il y a 10% de plus de non-soignants en France par rapport à la base 100, une base 100 de collaborateurs, collaboratrices qui participent au système de santé. Il y en a 10% de plus de non-soignants que dans les autres pays.
Deuxième élément, d'aller à l'hôpital pour se rendre compte qu'il y a plus d'administratifs que de soignants.
Exactement. Deuxième élément, enfin, on libère, alors il y a des contestations là-dessus sur le numerus clausus, mais là on est plutôt dans le sujet long terme. La réalité d'aujourd'hui, pour justement couvrir le problème des déserts médicaux et de l'accès à la médecine de ville, la réalité c'est qu'il y a un problème d'installation. Où s'installe-t-il? On sait qu'on n'a pas assez de médecins formés, mais en plus, où s'installe-t-il? Et donc, il y a une surcréation, enfin, il y a une amplification des déserts médicaux par rapport aux logiques d'installation. Voilà, j'ai envie d'entendre de la part du gouvernement
autre un véritable chose que des mesures
plan. Pas autre chose, parce que dans les mesures qui ont été proposées, et il y en a qui sont critiquables, il y en a d'autres qu'on admet parfaitement. Mais bon, ça fait un peu petite mesure par rapport à l'enjeu.
Avant de donner la parole à Christian pour parler des normes et de la politique industrielle, j'aimerais vous donner quelques réactions sur les réseaux sociaux. Pourquoi comparer le salaire de Tavares à celui de Kylian Mbappé plutôt qu'à un ouvrier de Stellantis? Quel pourcentage d'augmentation pour les salariés? Il y a un chiffre qu'on a oublié de préciser. Stellantis nous avait annoncé il y a quelques semaines que les salariés allaient eux aussi profiter des bons résultats de l'entreprise et qu'ils allaient percevoir en moyenne une prime de 4100 euros
partage de
cette profit. Année. Sur les bénéfices de l'an dernier. Voilà. Autre commentaire, si Tavares venait à disparaître subitement comme Michelin ou Ghosn, il serait remplacé sans difficulté, nous dit Skip Rivest sur X. Et commentaire Lionel qui n'est pas content, qui dit de la démagogie anti-patron à la démagogie anti-photo, c'est du populisme à deux facettes.
Il a jamais recruté là, la personne qui évoque
ouais,
ça.
Oui, je pense
on s'est tous plantés sur des recrutements, c'est extrêmement compliqué de trouver un dirigeant
talents,
compétent et des talents.
Voilà,
elle existe aussi la guerre des talents à ce niveau-là.
Christian Poyot, la politique industrielle, on a de grandes ambitions, mais on a trop de normes.
Oui, enfin...
Le gouvernement veut faire le ménage dans la réglementation.
Oui, alors, qui ne l'a jamais dit? Là, pour le coup, on est vraiment comme Saint-Amand, on attend de voir ce qui se passe. Non, la réflexion globale, parce qu'il y a eu une réunion entre Allemands, Italiens et Français il y a peu de temps là, sur le sujet de la politique industrielle commune, mais pourquoi ça? Parce que l'Europe a été créée, et c'est une excellente chose, inutile de préciser que je suis européen, je pense qu'on est tous autour de la table, bien évidemment, mais dans un monde de mondialisation heureuse, si j'ose dire, et avec des visions d'environnement économique stable où tout le monde partage les mêmes règles, etc. Bon, sans faire remonter trop l'histoire, aujourd'hui on est dans un monde complètement différent. La mondialisation heureuse, c'est terminé. Quoi. Je veux dire, on est dans la compétition. Il y a même des guerres, malheureusement. Ça, c'est le sujet le plus dramatique. Et puis on voit le protectionnisme qui a monté de manière phénoménale. Alors, on voit l'action des Chinois, mais on voit aussi l'action des Américains, etc. Et l'Europe, d'une manière générale, est restée dans une vision que je trouve très, très idéaliste. Alors, on a tous envie de garder notre modèle européen, et heureusement que ce n'est pas le même modèle que les Américains, et encore moins que les Chinois. Donc, mais sans dire qu'on veut arrêter ce modèle européen, il faut qu'on revienne complètement sur Terre. Typiquement, le droit de la concurrence, en Europe, qui a été piloté par la Commission, visait systématiquement à empêcher les rapprochements entreprises pour garantir cette concurrence.
On en a raté quelques-uns.
Mais c'est phénoménal. Alors, vous pouvez citer tous les secteurs, industriels, telco, dans la tech, etc.
Partout,
systématiquement.
Rapprochement dans
donc, qu'est-ce que ça fait au final? Ça empêche de la création de grands acteurs européens, qui soient français, anglais, enfin, même si l'Angleterre est un peu à part, mais enfin, globalement, c'est quand même encore des Européens, allemands, italiens, etc. Donc, c'est une vision, mais totalement hallucinante. On se tire des balles dans le pied de manière phénoménale. Et on va même encore plus loin, puisque on est dans cette volonté d'être toujours les premiers et les parfaits, ben on met des normes sur tout. Alors là aussi, comme d'habitude, c'est jamais tout blanc ou tout noir. Il ne s'agit pas de dire qu'il ne faut pas qu'il y ait de normes. Le sujet, typiquement, la transition écologique, est un sujet majeur qui s'impose par tous. Et c'est bien que l'Europe soit en avance sur un certain nombre de choses, d'accord? Mais est-ce qu'il faut. Le tuyau, c'est d'être un peu en avance et pas trop en avance pour à nouveau se tirer des balles dans le pied. Systématiquement, on rajoute des normes que les autres ne respectent pas. Je regardais un papier l'autre jour sur les normes de l'ONC, de l'OMC. Il n'y a que l'Europe qui les respecte, les autres pays s'assoient complètement dessus. Sur les normes comptables, c'est à peu près pareil aussi. Il y a des normes que les Américains ou les Japonais n'appliquent jamais, je ne parle même pas des Chinois. Le contrôle des marchés boursiers, pareil, il y a un article très intéressant dans les Échos il y a peu de temps, qui montrait comment les marchés boursiers chinois sont complètement en fait faussés d'une manière générale. Donc on se met des normes surtout, systématiquement, au passage de la CSRD là, qui va arriver,
ouais.
Qui est un sujet... Sur le fond, bien sûr, il faut aller dans ce sens-là, mais ça crée une complexité pour les entreprises, et notamment les petites et les moyennes, qu'on n'imagine pas. Donc il faut absolument, non pas revenir dessus, mais l'adapter aux contraintes réglementaires. Et puis je finirai, la cerise sur le gâteau, c'est la France, qui a un plaisir de surtransposition. Alors vous dites, il faut réduire les normes. J'ai cité récemment, vous avez vu qu'on va instaurer un diplôme pour enseigner le hip-hop.
Non.
C'est passionnant. C'est les députés qui ont voté ça.
Je l'ignorais.
Ça fait il y a trois semaines, etc. Donc les députés qui sont les premiers à vous dire... Il y a trop de normes, il y a trop de ceci, il y a trop de lois, il faut les réduire. Ils disent on va faire un diplôme pour enseigner le hip-hop. les PFAS, là, qui est un sujet complètement d'actualité.
Les polluants éternels.
Sujet grave, hein, encore une fois. Et vu des reportages sur ça, il ne s'agit pas du tout de traiter ça à l'envers de la main. Mais on sait qu'il y a un projet de loi européen qui va arriver vraiment dans les mois qui viennent. Raisonnons au point de vue européen avant de se dire, nous, Français, ça y est, on sort le drapeau et on met quelque chose sur la table.
Donc, parce qu'il y a un intérêt industriel derrière.
Oui, mais il faut trouver le bon équilibre, encore une fois. Hein, s'il y a un sujet de santé publique, il faut aussi savoir le traiter.
Il y en a un avec le diesel depuis des décennies. Depuis des années. On n'a jamais interdit le diesel.
Je
ne
suis pas une vision caricaturale en disant tout ça, on s'en fout. Ce n'est pas du tout ça le débat. Mais systématiquement, et je vais m'arrêter là, vous parliez de la réduction des normes, mais on en est à des années-lumière, y compris dans la tête de nos parlementaires qui systématiquement rajoutent des lois d'ex-tex pour contrôler, piloter, etc. Il faut que tout ça change. Et au niveau européen, la politique industrielle est un vrai sujet de sécurité économique pour la France et de notre modèle européen.
Xavier, Patrick, vous souhaitez réagir ?
Moi, je veux bien rebondir sur un point, le sujet de la constitution de champion européen, avec une des autorités de la concurrence qui sont obsédées à l'idée de dire « Ah, il y a deux sociétés importantes d'un même secteur qui vont se réunir, quid des prix, quid du consommateur final, parce que ce monopole va pouvoir profiter de la situation. » Et du coup, eh bien, on laisse des entreprises qui se font racheter par des entreprises étrangères. J'ai moi-même vécu, alors j'espère que ça a évolué en tant que dirigeant d'une entreprise de logiciels, j'ai moi-même vécu une situation où pendant un an ou un an et demi, on se posait la question de savoir si j'avais le droit de racheter une entreprise, et la base du raisonnement des autorités de la concurrence, c'est le marché pertinent. Et le marché pertinent, il était de 10 millions d'euros. C'est-à-dire pendant un an et demi, on se posait la question en disant, oh là là, ça va peut-être créer, etc. Et puis le monde a changé aussi. Je vous rappelle au moment, alors je suis pas spécialiste, mais il y a eu un certain nombre de choses qui ont été écrites à l'époque, sur le rapprochement au Fnac Darty. Le raisonnement, c'était le nombre d'implantations. Le monde n'a pas changé. Vous avez vu le volume de chiffre d'affaires qui est fait en dehors de l'implantation physique via Internet. Ah oui, effectivement, donc il faut peut-être changer nos règles. Donc voilà, il y a sur ce point de l'autorité de la concurrence et du contrôle des concentrations, moi je suis depuis très longtemps, je l'ai déjà exprimé sur ce plateau, sur un contrôle extrêmement dur ex post pour s'assurer qu'il n'y a pas profit anormaux d'une situation qui serait pas une situation de monopole, mais une situation de part de marché extrêmement importante sur un marché donné.
On termine avec la carte blanche de Xavier Thimbault. Vous allez nous parler des taux, puisque jeudi, la BCE réunit son conseil des gouverneurs et a priori, c'est la dernière réunion, il y aura un statu quo.
Oui, alors, en tout cas, aujourd'hui...
C'est ce que prévoit le marché.
Voilà, la politique monétaire, on est dans la phase où tout le monde a anticipé qu'il y avoir une baisse des taux. Et donc, tout le monde commence à s'en réjouir. On voit que, d'ailleurs, c'est pas totalement inutile, puisque... Bah, par exemple, il y a eu un ralentissement très brutal des marchés immobiliers, par exemple en France, mais pas simplement en France.
Le financement des entreprises.
Le financement des entreprises est aussi problématique, en particulier en sortie, en remboursement de PGE pour un certain nombre de petites entreprises. Ça pose effectivement beaucoup de difficultés. Les banques distribuent moins de crédits, donc ça aussi, ça a des conséquences aussi sur l'investissement, sur la trésorerie. Bon, donc, tout le monde se réjouit. Alors, il y a deux points qui appellent vigilance. Le premier, c'est qu'on entend beaucoup les banques centrales, en tout cas, on va beaucoup entendre Christine Lagarde nous dire en fait, notre politique monétaire a fonctionné parce que l'inflation décroît. Alors, attention, l'inflation, elle décroît.
Parce que les prix de l'énergie et des matières premières ont baissé et parce qu'il y a un effet de base qui nous est favorable.
Voilà, c'est pour ça. Et c'est pas grâce à l'action des banques centrales. Le prix de l'énergie, c'est pas du tout lié au taux d'intérêt. En fait, le prix de l'énergie, c'est lié à tout un tas de mesures qui ont été prises en Europe pour répondre à la pénurie induite par l'invasion de l'Ukraine par la Russie et les sanctions vis-à-vis de la Russie.
Mais là, vous êtes en train de nous dire finalement que les hausses de taux n'étaient pas si nécessaires que ça ?
Alors, à quoi elles ont bien pu servir ? En tout cas, elles n'ont pas servi, on ne peut pas dire qu'aujourd'hui elles produisent le reflux de l'inflation.
Est-ce qu'elles ont permis d'éviter les effets de second tour ?
Alors, elles ont probablement permis d'éviter les effets de second tour, sauf qu'en fait, ces effets de second tour, on ne les a pas vus. Et si on regarde les anticipations d'inflation, on voit qu'elles ont un tout petit peu augmenté à un moment. Rappelez-vous, il y a un an et demi, on parlait beaucoup du risque d'inflation et on s'inquiétait. Il y avait plein d'observateurs qui disaient qu'en fait, cette inflation, elle n'était pas du tout liée à la guerre, elle était structurelle. On voit que, en fait, c'est pas le cas. Donc, et ça, c'est peut-être le symptôme que les anticipations se sont retournées. On a d'autres indicateurs. Bon, on a mis en place une politique monétaire extrêmement brutale pour arriver à ce résultat qui est relativement maigre. Donc aujourd'hui, qu'on est dans la phase de renormalisation de la politique monétaire, il faut se rappeler que la phase de durcissement a été très rapide et très brutale. Et que si on veut être cohérent, et si on se félicite du fait que l'inflation sous-jacente ralentisse, les anticipations sont revenues à la normale, il faut que la politique monétaire soit normalisée de façon très rapide.
Ouais.
Et très franche.
On aura peut-être un décalage entre l'Europe et les États-Unis, puisqu'il y a plus besoin d'une baisse des taux rapidement en Europe qu'aux États-Unis, si on regarde les fondamentaux économiques. Est-ce que ça veut dire que la BCE va enfin s'émanciper ?
C'est le risque, en fait. C'est qu'elle ne s'émancipe pas de la politique.
Parce qu'elle a tendance, et Christine Lagarde déteste ce genre de réflexion, mais elle a tendance à suivre la Fed.
De fait, on constate qu'effectivement, elle a tendance à suivre la Fed. La Fed a d'ailleurs des raisons d'être un peu plus prudente. L'exposition à l'énergie est bien moindre aux États-Unis, donc l'inflation est bien moins liée à l'énergie. D'ailleurs, elle ralentit un peu moins, alors qu'en Europe, elle est vraiment liée à l'énergie et que ce ralentissement, il est très marqué. Et donc oui, la Banque Centrale Européenne devrait s'émanciper des États-Unis. Et si elle ne le fait pas, en fait, c'est là qu'on aura une politique monétaire excessivement restrictive. Et ça a des conséquences. Ça a des conséquences budgétaires, parce que les recettes liées à l'immobilier ne sont pas là. Ça a des conséquences dans la vie de tous les jours, parce que les gens qui ne peuvent pas changer de logement, ils vivent dans des conditions plus difficiles. Ils n'accèdent pas aux emplois. C'est des entreprises qui ne peuvent pas recruter. C'est des entreprises qui ont du mal à investir. Voilà, c'est en cascade tout un tas de choses. Et donc, la responsabilité de la Banque Centrale, elle est extrême ici. Peut-être ça a été trop brutal, mais ce qui est fait est fait. Et c'est dans la renormalisation de la politique monétaire que va se jouer la crédibilité de la Banque Centrale.
Ouais, et si on
veut vraiment que l'économie française et européenne reparte rapidement, parce que là, elle est quand même dans une phase morose ou atone, enfin, je ne sais pas quel terme il faut prendre. Oui, il est impératif que la BCE prenne conscience de ce genre de choses, sans parler du secteur immobilier qui est dans un marasme total, évidemment.
Et cette décision de la BCE, ce sera à suivre jeudi. Nous serons en direct à partir de 14h en édition spéciale pour cette réunion de la BCE à Francfort. Merci à tous d'avoir participé à cette émission. Patrick Bertrand, directeur général en charge des opérations d'Allnest, Christian Poyot, PDG de Micropole, et Xavier Tambo, directeur principal de l'OFCE. À suivre dans un instant, Tout pour investir avec Lorraine Goumeau. Je vous retrouve demain à 9h.
Les experts, débats et controverses sur BFM Business.